La victoire sur la force. S'il considère tout ce qui a été vénéré jusqu'à présent sous le nom d'esprit surhumain, de génie, on arrive à la triste conclusion que, dans son ensemble, l'intellectualité humaine a dû être quelque chose de très bas et de très pauvre, dont il fallut peu d'esprit pour se sentir considérablement supérieur à elle. Qu'est-ce que la gloire facile du génie? Son trône est si vite atteint, son adoration est devenue un usage. On adore toujours la force à genoux, selon la vieille habitude des esclaves, et pourtant, lorsqu'il faut déterminer le degré de vénérabilité, le degré de raison dans la force est seul déterminant. Il faut évaluer en quelle mesure la force a été surmontée par quelque chose de supérieur, à quoi elle obéit dès lors comme instrument et comme moyen. Mais pour de pareilles évaluations, il y a encore trop peu d'yeux. On va même jusqu'à considérer comme un blasphème l'évaluation du génie. Ce qui fait que ce qu'il y a de plus beau se passe peut-être toujours dans l'obscurité, et, à peine né, s'effondre dans la nuit éternelle. Je veux dire le spectacle de cette force qu'un génie emploie, non à des œuvres, mais au développement de soi-même en tant qu'œuvre. C'est-à-dire à la domination de soi, à la purification de son imagination, à l'ordonnance et au choix dans les inspirations et dans les tâches qui surviennent. Le grand homme reste toujours invisible, comme une étoile lointaine dans ce qu'il a de plus grand qui exige l'admiration. Sa victoire sur la force demeure sans témoin, et par conséquent aussi sans être glorifié et chanté. La hiérarchie dans la grandeur de l'humanité passée n'est pas encore déterminée. La fuite devant soi-même. Ces hommes d'élite intellectuelle qui sont impatients à l'égard d'eux-mêmes et assombris, comme Byron ou Alfred de Musset, et qui, dans tout ce qu'ils font, ressemblent à des chevaux qui s'emportent, ces hommes qui, dans leur propre œuvre, ne trouvent qu'une courte joie et une ardeur qui fait presque éclater les veines, et ensuite la froide stérilité et le désenchantement, comment ces hommes supporteraient-ils de s'approfondir sur eux-mêmes? Ils ont soif de s'anéantir dans un « au-dehors de soi ». Si avec une pareille soif on est chrétien, on visera à s'anéantir à Dieu, à s'identifier avec lui. Si l'on est Shakespeare, on se contentera de s'anéantir dans les images de la vie passionnée. Si l'on est Byron, on aura soif d'action, parce que celle-ci nous détourne de nous-mêmes plus encore que les pensées, les sentiments et les œuvres. Le besoin d'action serait-il donc au fond le besoin de fuite devant soi-même? Ainsi, demanderait Pascal. Et en effet, les représentants les plus nobles du besoin d'action prouveraient cette insertion. Il suffirait de considérer avec la science et l'expérience d'un aliéniste, bien entendu, que les quatre hommes qui, dans tous les temps, furent les plus assoiffés d'action, ont été des épileptiques. J'ai nommé Alexandre, César, Mahomet et Napoléon, tout comme Byron lui aussi, a été affligé de ce mal.